Le quart d'heure ciné sur RCN.
Margot Gross.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCN et vous écoutez le quart d'heure ciné, votre émission consacrée aux sorties de films chaque mardi à 17h. Et aujourd'hui, on se retrouve à l'occasion de l'avant-première du film Tony en famille, projeté à l'UGC de Ludre. Et nous sommes en compagnie de Nathan Ambrosioni, le réalisateur, et de l'actrice Camille Cotin. Bonjour Nathan, bonjour Camille. Alors est-ce que vous pouvez d'abord nous dire quelques mots sur le film et ses personnages ?
Tony en famille, c'est l'histoire de Tony, Antonia, qui est une femme et une mère de 5 enfants qui sont maintenant tous adolescents et dont même les plus grands s'apprêtent à quitter le nid. Et elle se rend compte qu'une fois qu'ils seront tous partis, et ce moment va arriver plus vite que prévu, elle ne s'est pas bien posé la question, elle ne s'est pas vraiment posé la question de qu'est-ce qu'elle va faire d'elle et de ses envies. Et elle se persuade alors qu'elle veut reprendre ses études.
Absolument. Tony, ancienne star de la Starac, une maman aimante, prévenante, vulnérable mais très puissante, qui ose s'avouer qu'elle n'a peut-être pas la vie dont elle rêve.
Alors pour commencer, comment ça se passe votre tournée à quelques jours de la sortie du film? Comment vous vous sentez?
Stressée là, quand même. Fatiguée, mais heureux, parce que c'est la dernière, en tout cas ce soir c'est la dernière date, donc c'est un peu particulier. Il y a déjà quelque chose d'un peu nostalgique là que je commence à ressentir, et je crois que c'est ça qui me met un coup de barre, parce que j'ai pas envie que ça se termine. C'était vraiment formidable, on a beaucoup de chance, c'est une chance de rencontrer les spectateurs, d'avoir Camille qui vient avec nous, et on reçoit pas mal d'amour, donc franchement on est heureux. J'ai l'impression que ça peut moins bien se passer quand même, donc c'est super. Après voilà, c'est vrai que plus les dates avancent, plus on s'approche de la sortie du film, et c'est comme une massue qui tombe petit à petit. J'espère qu'elle sera le plus douce possible, la chute.
Et moi je suis très heureuse d'accompagner Nathan. Je suis émerveillée depuis le début de cette aventure par son talent et son humanité. Je vis cette sortie un peu comme si moi aussi j'en étais à mon deuxième film et que j'avais 24 ans. Et néanmoins, ce qu'il a accompli sur le film, de l'écrire, de le réaliser, de le monter. J'ai beaucoup d'admiration pour son travail. Je suis heureuse d'être à ses côtés. De partager ça avec le producteur aussi, Nicolas Dumont, qui est toujours là avec nous, et puis l'équipe de Studio Canal. Voilà, c'est une belle aventure d'accompagner ce film, et j'adore ce qu'on va faire ce soir, c'est-à-dire discuter avec le public à la fin, parler de leurs émotions, répondre aux questions. Voilà, il y a quelque chose de très doux autour du film, et c'est très plaisant.
Vous mettez en avant dans le film un moment un peu charnière qu'on finit tous par vivre, un moment de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, puis ensuite les passages au fur et à mesure de l'âge adulte. Mais vous êtes plutôt jeune pour réalisateur, vous l'avez dit. Vous avez une vingtaine d'années, c'est ça?
Oui, je viens d'avoir 24 ans, la semaine dernière.
24 ans, et vous faites un zoom sur ce moment de la vie, à un moment où on a une quarantaine d'années, où on se dit, mes enfants ils vont partir, il faut peut-être que je fasse autre chose. D'où vient l'idée, l'inspiration? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur comment c'est venu?
Je ne sais pas vraiment dire pourquoi je suis aimanté par ça, mais ça m'a toujours inspiré. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les gens qui s'autorisent à se remettre en question. Des gens qui se remettent en question, je trouve qu'il y a... Ça demande un énorme courage quand même d'interroger sa stabilité, d'interroger ses habitudes. Même là, je parle de stabilité, on pourrait croire que la vie de Tony, elle n'est pas si stable, mais en tout cas, voilà, c'est quand même une vie faite d'habitudes et de rouages qui vont assez bien ensemble. Et ça me bouleversait, mais personnellement, en fait, ce parcours, le parcours de Tony, qui n'est pas inspiré de quelqu'un, mais qui est inspiré de plusieurs histoires, qui est inspiré de juste une envie de la connaître. Voilà, j'étais très curieux de connaître Tony.
C'est un personnage qui est venu dans votre esprit au fur et à mesure, qui s'est créé.
En fait, c'est ça, c'est que de cette envie de parler de reconversion, de remise en question, il y a le statut de la mère de famille de 5 enfants, qui est un statut social qui est un peu ultime, que la société autorise peu à interroger, en fait. Parce qu'il y a cette invisibilisation de la femme derrière le rôle de la mère, qui qui est inévitable et qui est malheureuse. Et le film raconte pas que Tony, elle ne se contente pas de ses enfants, qu'elle ne les aime pas, qu'elle a envie de... En fait, c'est simple. C'est justement, je pense que c'est parce qu'aussi elle est comblée par cette vie de famille et qu'elle peut se permettre ça. Elle peut se permettre. Elle voit qu'elle a réussi à créer un écosystème qui est viable et qui marche bien, et que ses enfants sont en train de devenir des personnes qu'elle admire aussi. Et elle a. Je pense que ça l'élève de voir tout ça, et elle se rend compte qu'elle a le droit, qu'on lui a peu laissé le droit dans sa vie de se pencher sur ses propres désirs. Sa mère, elle lui a pas laissé le droit. Sa mère, elle l'a forcé à chanter. Parce qu'elle avait une belle voix et elle a instrumentalisé sa fille. Ensuite, elle a eu ses enfants. Bon, ben voilà, c'est... On n'a pas beaucoup le droit de penser à soi quand on a des enfants qui sont petits. Et là, ça y est, ils grandissent. Et Tony, elle se rend compte que c'est le moment, que c'est pas du tout trop tard, qu'elle a largement le temps de penser encore et d'imaginer sa vie. Et ça me touchait qu'elle soit dans la même position que ses enfants, finalement. En fait, ils vivent à peu près tous la même chose dans ce film. Et ils se déplacent un peu tous en même temps. Et voilà, moi je me sentais très proche. Enfin, je l'ai écrit quand j'avais 20 ans, je venais de finir Parcoursup, Tony, je la trouvais pas très différente de moi. Il y a des choses que j'expérimenterai jamais, il y a une charge mentale que je connaîtrais pas, que Tony expérimente, enfin qu'une mère de famille expérimente, qu'une femme expérimente. Mais mon empathie, elle me permettait peut-être de me dire, ok, en quoi je pourrais ressembler à Tony et en quoi Tony, elle est peut-être pas si loin de moi.
Je trouve que c'est un film, enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, ultra féministe. Vous mettez en avant aussi toutes les petites violences du quotidien qu'une femme peut connaître au cours de sa vie, et notamment à partir du moment où, entre guillemets, elle dépasse l'âge de la date de péremption, truc grand guillemets évidemment, mais j'ai l'impression que vous mettez ça en avant, mais de manière très... comme si c'était normal, mais aussi pour le dénoncer. Je ne sais pas si c'était volontaire ou est-ce que c'est venu naturellement.
Bah, y a une envie vraiment féminine. Bah, ça, c'est sûr que ça a motivé aussi l'écriture. Et je trouve que c'est marrant parce que... Enfin, pas là, mais le mot commence presque... On s'est remis à en avoir peur. Parce que bah, quand on fait un pas en avant, on recule aussi un peu. Mais moi, je n'ai pas du tout peur de ça. Au contraire, c'était assez important en fait, de changer les histoires qu'on raconte. Il y en a eu beaucoup, des films... avec des hommes, des films pour des hommes, on en a plein, et ça veut dire qu'on n'en veut plus, hein. Il y en aura toujours, et tant mieux, enfin, c'est très bien. Mais je pense que, voilà, il y a aussi d'autres histoires à raconter, en fait, c'est ça qui est malheureux et en même temps super, c'est qu'on a plein d'histoires, on n'a pas du tout fait le tour, en fait. Il y a vraiment plein d'histoires à raconter, si on change le point de vue, si on change le personnage, si on change.
Ouais, ça ne s'adresse pas exclusivement aux femmes.
Mais complètement. Et le but, c'est pas du tout ça.
C'est la réception du film, elle est étonnante d'ailleurs, même chez les hommes. Enfin, moi, j'ai plein d'amis de mon âge qui ont été hyper émus, que ça a beaucoup touché. Donc, c'est pas. Finalement, c'est pas parce que c'est un film féministe qui s'adresse à des femmes. De la même façon qu'on aime beaucoup les films d'hommes aussi.
Mais c'est vrai que je pense pas qu'il faut différencier politique et divertissement. Enfin, moi, j'ai pas l'impression. Et de toute façon, le film, ouais, il n'est pas ouvertement militant. Et justement, je voulais que ce soit très doux parce qu'il faut que ça devienne naturel, en fait. Et je pense aussi que le naturel passe par la douceur. Et pour moi, je pense vraiment pas que parce qu'un film... aborde un sujet, traite de quelque chose, parce que le féminisme ne devrait même plus être un sujet, mais en tout cas, traite de quelque chose, je pense pas que ça en enlève sa partie divertissante ou son humour, et ça nous empêche pas de le rendre drôle ou de le rendre émouvant.
Après, c'est vrai que voilà, la représentation, elle est importante dans la fiction, en fait, et que ton souhait de mettre en lumière un profil qui est plutôt invisibilisé, c'est politique.
Et ça, mais comme avec les enfants, je pense que c'est ça le mot, c'est la représentation. C'est juste, il faut représenter, mais le plus positivement possible. Plus c'est positif, parce qu'on le voit, la représentation des personnages queer au cinéma. Là, je parle pas forcément féminin, mais queer, il y en a eu plein, enfin il y en a des représentations, mais en fait il y en a beaucoup des négatives, et ce qui est, c'est quand même une représentation, mais c'est important aussi d'aller vers une représentation positive. C'est pour ça que le film, on le voulait quand même lumineux, plein d'espoir,
et drôle, et
voilà.
Oui, c'est le cas, les enfants sont lumineux, la famille est lumineuse, Tony elle-même la trouve lumineuse. Tout est dans le sens positif. Quand j'ai dit féministe à la base, c'était vraiment dans le sens positif.
Mais de toute façon, je pense vraiment pas que... Enfin, c'est fou qu'on soit, revenu où le féminisme est presque une insulte ou un truc comme ça. Enfin, je trouve ça...
Oui, moi c'est vrai, quand on m'avait demandé, vous êtes, il y avait une émission de radio, je faisais la promotion d'un truc qui était super sur Arte qui s'appelait H24, où on parlait il y avait des auteurs qui devaient raconter 3 minutes de la vie d'une femme. Et c'est assez dense. Mais on m'avait dit, alors est-ce que vous êtes féministe? Et ça, je me disais, mais c'est... Vous savez ce que vous êtes humaniste? En fait, je ne comprends pas comment on pourrait répondre, à part quand on est Finkielkraut, mais sinon, comment est-ce qu'on pourrait répondre, genre, ah, ça y est, j'ai sorti le truc. Ah non, mon producteur, il me dit coupe. Non, mais ça va, j'ai déjà ma copine Camille Chamou qui
vient.
Non, mais voilà, c'est... Non, moi, je voudrais revenir sur la date de péremption. Tel un yaourt. Un vieux yaourt. Non, c'est vrai que après, je pense que... aujourd'hui, ça me paraît presque... C'est pareil, en fait, c'est la même chose de penser que 40 ans, on est sur un déclin. Ça me paraît aussi désuet ou aussi absurde, aussi ringard que de penser que féministe, c'est extrême. Mais voilà, je pense qu'à 40 ans, au contraire, c'est un... Mais même dans sa, psychologiquement, en fait, je pense qu'on est quand même, enfin, plus, beaucoup plus serein, beaucoup plus stable, et donc apte à faire des choix de manière beaucoup plus apaisée. Alors, je suis curieuse de savoir comment tu seras, toi, à 40 ans. À ce rythme-là, Gandhi, je vois que ça.
L'évolution n'est pas du tout exponentielle.
Ben, quand même.
J'espère que je ne te décevrai pas. J'espère qu'on fera toujours des films ensemble.
Mais oui, je radoterai un peu peut-être.
Tu n'auras que 60
non,
ans.
Non, j'aurai que 60 ans et c'est encore pour moi...
Et ta maman en est l'exemple.
Ma maman en est l'exemple, bien sûr.
Mais c'est là, effectivement. Mais c'est fou qu'on voit que notre société a quand même ça dans la tête, parce qu'effectivement, il y a même des phrases de promotion qui sont reprises pour le film. Je ne parle pas que le distributeur utilise, mais que dans les médias de... À 40 ans, est-il toujours possible de se reprendre?
Ouais, c'est hyper étonnant, en fait. J'avoue, je comprends pas. Mais j'imagine que... Mais même, je sais pas, dans le monde de l'entreprise, c'est compliqué, en fait. Je pense que quand on envoie un CV... Mais alors que ça me paraît être en décalage complet avec la réalité de ce qu'on vit et dans sa tête et physiquement à 40 ans. Voilà, mais bon, j'espère qu'on va voir une évolution par rapport à ça, mais... C'est vrai que c'est assez étonnant. Après, si les gens de 20 ans se mettent à avoir cette énergie créatrice et ce talent, et bon, c'est vrai que c'est vrai. C'est vrai que ça rend la vie difficile. Mais...
Camille, tu parlais à l'instant de ta mère et j'ai lu justement qu'elle avait repris le chemin de l'université à 60 ans. Est-ce que toi, tu as vu un parallèle qui t'a aidé dans l'interprétation de ton rôle?
Oui, du coup, j'ai dit, oh, bon, y a rien d'extraordinaire alors. Non, mais pas du tout. Non, mais c'est vrai que ça m'a... Non, ce qui est amusant, c'est que Nathan ne le savait pas et que donc, je pense qu'il y a des choses qui se transmettent intuitivement finalement, qu'on véhicule... voilà, mais c'est vrai que j'étais heureuse de parler de ça. Après, c'est un peu différent. Ma mère, c'était par curiosité intellectuelle. Là, Tony, c'est dans le but de se... Enfin, il y a une reconversion professionnelle. Il y a un enjeu économique aussi. Donc, il y a des conséquences importantes dans cette décision qui rajoutent de l'enjeu dramatique. Mais en attendant, cette envie... Effectivement, j'ai pensé à ma mère quand Tony regarde cette université... A envie d'y entrer. Et après, ça m'a touchée. Je pense aussi à mes amis qui n'ont pas forcément fait d'études. Est-ce que ça a pu... Alors que c'est des gens hyper cultivés et autodidactes. Mais il y aura toujours cette petite fragilité de ne pas avoir été à l'université. Et je trouve ça touchant. J'aime aussi le fait que Nathan raconte une émancipation. En fait, elle a envie de redevenir une femme, d'être la femme qu'elle a envie d'être, et ça passe pas par le regard masculin, par une rencontre amoureuse aussi. C'est par le biais du savoir et de la connaissance qu'elle a envie de s'épanouir et de grandir, se réaliser, quoi. Elle le dit, elle a envie d'enseigner, elle a envie d'être, justement, au contraire, de transmettre ce qu'elle a appris en ayant le sentiment d'avoir été coupée de ça. Mais même quand elle conseille à sa fille de faire des études, et sa fille n'en a pas forcément envie, elle a envie de la protéger aussi. Donc je ne sais pas si c'est dans un souci d'individualité, en tout cas c'est de retrouver son corps à elle et une indépendance.
Nathan, je sais que toi tu es né à Grasse et le film a été tourné à Grasse. Pourquoi ce choix de lieu de tournage, ça te tenait à cœur ?
C'est vrai que j'avais à l'époque, j'avais vraiment vécu ailleurs qu'à Grasse, et j'ai l'impression que c'est assez naturel d'imaginer des histoires dans des lieux qu'on connaît, et il y a beaucoup d'histoires à Paris. Quand on vient, le cinéma français se passe beaucoup à Paris, c'est pas du tout un problème, mais quand on vient en tout cas de la province comme les Parisiens l'appellent, il y a parfois ce désir de représenter, encore une fois, de représentation, de se dire ah, ce serait chouette qu'une histoire se passe ici. Il y en a peu, il y en a sûrement plein, mais moi en tout cas, je parle de ma cinéphilie, j'en avais pas vu tant que ça qui se passait dans le sud, qui se passait chez moi, ou en tout cas qui représentait chez moi de façon pas caricaturale et qui représentait pas le sud pour ce qu'on pense que c'est, mais pour ce qu'il est. Mais je parle du sud, mais au final ça s'applique un peu partout. Enfin, j'ai l'impression qu'on peut venir un peu de partout et avoir envie d'une histoire qui filme chez nous. Donc voilà, c'était un désir assez patriote régional. Enfin, il y avait cette envie de rester chez moi, d'amener des gens chez moi, de leur montrer, d'être fier, de leur montrer mon collège, de m'attourer dans mon collège, dans mon lycée, dans tous les lieux que je connais de ma ville et de ma région. Et ça me plaisait beaucoup, cette idée de leur présenter tout ça et de faire évoluer des personnages dans un cadre que je connais. Je pense que c'était sécurisant aussi. Parce que quand on écrit une histoire, il y a plein de choses qui sont personnelles et il y a aussi plein de choses qui sont de l'ordre de l'histoire qu'on doit écrire, qui ne nous concernent pas tout le temps. Là, en tout cas, c'est pas autobiographique, Tony. Et le fait de la faire évoluer dans des lieux que je connais, moi, ça me la rendait très accessible. Encore une fois, ça la rapprochait encore un peu de moi. Les enfants, ils vont dans le lycée où j'allais, ils vivent des choses que j'ai vécues. Madame Audemars, c'était ma professeure de français, qui est exactement
elle
Madame
Audemars
dans le film. Non, elle n'est pas venue. Mais elle est partie à la retraite, en fait, quand j'étais en première.
Mais quand elle va voir le film, elle ne sait pas qu'elle porte le nom d'un des plus beaux... Enfin, pas d'un des plus beaux personnages, mais interprété par Sadia Ben Taïeb, que je vénère comme actrice, et qui est à peu près presque la seule personne du film qui pose un regard bienveillant sur l'envie de Tony. Quand elle va voir ça, Madame Audemars, elle va être méga touchée, non?
Moi, j'ai hâte, je compte lui envoyer un mail à la sortie du film.
Est-ce qu'elle t'a marqué?
Elle m'a énormément marqué. C'est pour ça qu'elle m'a énormément marqué. C'est la seule prof qui m'a autorisé à tourner, parce que je tournais des petits courts-métrages, pendant 16 heures de cours. À un moment, elle m'a dit j'ai entendu que tu avais besoin d'une salle de classe. On a cours pendant 2 heures cet après-midi, si tu veux. On ne fera pas cours et tu tournes avec les élèves de la classe. Et elle l'écoutait autant que Madame Audemars écoute.
Ah, Madame Audemars.
Est-ce que ça vous a fait plaisir?
M'a fait hyper plaisir. J'étais très contente. Et que vous dire d'autre? Non, j'ai adoré les L5. J'adorais toutes les femmes de ta vie. Et un peu d'air, pour être très précise. J'aimais beaucoup Jennifer, des mots qui résonnent. Et donc, j'étais très contente d'interpréter cette chanson, qui est vraiment un pastiche. De ce genre de tube interprété par ces super filles gagnantes, par les gagnantes. Et voilà, et donc je me suis beaucoup amusée et ça a été créé composé par Émilie Gassin et Ben Violet, qui sont des compositeurs très talentueux. Nathan a donné un cahier des charges avec quelques mots qu'il a distillés comme ça,
qui était papillon, qui était piédestal, qui était le titre, pas qu'un peu. Mais ils étaient extrêmement créatifs. En une semaine, ils avaient... en une semaine plus tard, ils avaient pondu une première version de la chanson qui ressemble fortement à la dernière version. Mm. Et ils ont compris tout de suite. J'avais fait une playlist qui s'appelait Tony 2000, et avec tous les titres que Camille a cités. Et ils ont compris l'essence tout de suite. Et le but, c'était que ça soit très... C'était plaisir coupable. Et moi, quand je l'écrivais, je me disais... Enfin, j'en avais envie de ces moments. J'avais envie de les voir, chanter la chanson. C'était... On adore chanter ces chansons-là.
Après, moi, j'essayais genre, de l'interpréter. Je me disais... OK, il faut l'interpréter. C'est-à-dire que... Ouais, et puis il faut qu'elle y croie à ce qu'elle dit.
Et tu l'interprétais à 20 ans. Enfin, c'était vraiment...
Oui, c'est ça. Oui. Mais j'ai pas changé ma voix finalement. J'ai essayé, ça marchait pas très bien, donc il valait mieux que je garde ma voix.
Oui, mais dans ton énergie de...
Il fallait trouver une énergie un peu juvénile. Une
énergie de révolte.
Ouais, c'est ça. Oui, la révolte, oui, c'est ça, la vingtaine un peu insolente.
Femme libre, suivre mon destin. Ouais. C'est... Mais ça part, et c'est un peu un reflet, effectivement. Ils avaient lu le scénario, et c'est le producteur qui nous souffle à l'oreille. Mais ils avaient lu le scénario, Ben Violet et Émilie Gassin, et ils en ont fait un reflet aussi de ce qu'a vécu Tony. Parce qu'elle chante, justement, une des paroles du refrain, c'est « Femme libre, suivre mon destin ». C'était des chansons comme ça, un vieux mot d'empowerment féministe, qui est un mot un peu daté. Mais en tout cas, voilà, à cette époque-là, il y avait ce truc où Tony, elle était sous la joute de sa mère. Enfin, elle n'a pas du tout choisi cette carrière. Et finalement, elle chante une chanson, elle se dit femme libre, alors qu'elle ne l'était pas encore. Et c'est ce qu'elle va chercher dans le film. Bon, c'est fait beaucoup de, beaucoup de profondeur pour un son qui ne le paraît peut-être pas, mais il est bien plus qu'on le pense.
Merci beaucoup Nathan et Camille de nous avoir accordé cette interview. Merci à toute l'équipe du film Tony en famille, on le rappelle, qui sort en salle le 6 septembre. Vous pourrez le découvrir sur le grand écran. Merci aussi à l'équipe UGC qui nous permet de faire ces belles interviews. Et bien sûr, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Rendez-vous mardi prochain à 17h pour la prochaine émission. We'll be right back.